Puis les meilleurs mois de l'année, même pour le touriste, c'est dangereux parce que les gens se disent, mais là, j'ai réservé, ça ne marche pas, donc ils reportent l'année d'après où ils sont remboursés. Mais il faut comprendre que pour les pourvoiries, là, tu as 2, peut-être 3 mois là, d'activité, surtout pour la pêche. La
Ouais.
chasse, ça va à l'automne. Il y a des pourvoiries qui offrent les deux, mais pour ce qui est de la pêche, là, c'est quand même catastrophique. Puis c'est de l'argent qui n'est pas dépensé au Québec. Puis c'est des vacances qui sont malheureusement annulées ou modifiées de façon significative. Alors, pour tout l'Est du Québec, là, pour notre région, c'est quand même pas drôle. C'est quand même une catastrophe. Mais qu'est-ce que tu veux? On espère que l'an prochain, ça va aller mieux. Mais là, on a des surprises. Moi, j'ai une maison que je loue à l'île aux grues en face de Montmagny chaque année. Puis hier, tous les traversiers ont été cancellés. Il y en avait 8 dans la journée, ça a été annulé. Des choses, j'en parlais au marin ce matin, là, au matelot, là, qui me disait que c'était une chose qu'il n'avait jamais vue depuis 20-25 ans. Alors, c'est quand même sur le fleuve, les traversiers qui sont pas opérationnels, c'est quand même pas très loin de Québec. On est à 45 minutes de Québec. Puis à cause des vagues, les bateaux présentent des dangers. Ils ont peur que les automobiles, le bateau, faut qu'il soit capable d'accoster aussi. Faut que tu
Exact.
puisses attacher le bateau au quai.
Ouais.
Et quand il y a des trop grosses vagues, il y a des risques de bris, des risques d'accident. Alors, je vais te dire, là, c'est des choses, moi, que j'ai jamais vues de ma vie, là. Puis, je sais pas si on est au bout de nos surprises, mais disons que
Ben, les
on va
avertissements.
être gâtés pour 2023.
Mais Belmont, des avertissements d'ondes de tempête, moi j'en vois régulièrement. T'sais, en faisant de la radio, nécessairement, on regarde un peu ce qui se passe du côté de la météo. Puis Environnement Canada émet régulièrement des avertissements d'ondes de tempête. Donc, ça brasse beaucoup plus qu'on peut le penser sur le fleuve Saint-Laurent. Puis effectivement, quand vous dépendez des traversiers, ben, il y a des jours où c'est pas possible de le faire. Puis malheureusement, ça vous est arrivé, là. Vous êtes là pour combien de temps, là?
Une semaine.
Une semaine. Vous êtes bien logé?
Oui, tout à fait. En sécurité, puis avec des couchers de soleil à nous couper le souffle, ça a commencé. Là, c'est très beau en ce moment, là, mais qu'est-ce que tu veux? Je garde ça pour moi.
Ben oui, c'est ça. Gardez ça pour vous. Hey, Maître Bellemare, dossier d'actualité qui est apparu aujourd'hui au Palais de justice. Est-ce que c'est le Palais de justice de Québec ou de Montréal? Oui, c'est le Palais de justice de Québec. Un gars qui vient d'écoper de 8 ans pour proxénétisme. Son nom, c'est Romuald Andy Hamann, qui a organisé les services sexuels offerts par des adolescentes durant une virée d'à peu près une dizaine de jours. Ces événements-là sont survenus en 2016 et, bon, on lui a donné 8 ans lundi matin au Palais de justice de Québec au terme des procédures judiciaires qui se sont étirées quand même sur de longues années, là. Ça fait un bout que je vois la tête passer. Il y a une drôle de tête, fait que c'est pour ça que, tu sais, on y reconnaît le visage assez facilement. Ça fait depuis 2016 que ça traîne. Puis, ce que j'ai trouvé particulier dans ce dossier-là, c'est qu'en jasant avec Boisvenu, sénateur Boisvenu, il me dit qu'il va faire à peu près 2 ans et demi de prison maximum, là, même si le gars est écopé de 8 ans de prison pour avoir fait du proxénétisme. Là, t'sais, jouons pas avec les mots, c'est de la traite de femmes. Là. Il va juste faire 2 ans, 2 ans et demi maximum.
Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'il risque de faire plus que ça. J'ai pas les détails du jugement, mais il y a plusieurs victimes. La juge a condamné à des peines consécutives. On sait qu'il a profité de ces deux jeunes filles-là qui avaient quitté, qui étaient en fugue, et il a organisé des services de traite sexuelle dans plusieurs villes du Québec. C'est très difficile de savoir quand est-ce qu'il va sortir. C'est sûr que la plupart du temps, c'est aux 2 tiers s'il se comporte bien en prison. Mais on a vu, là, il y a une histoire de sadique sexuel à Montréal, là, où des fois, il y a des thérapies qui fonctionnent pas. S'il va pas en thérapie, s'il participe pas au programme de réadaptation à l'intérieur des murs, parce qu'il va être dans un pénitencier, plus que 2 ans moins un jour, c'est pas dans une prison du Québec, c'est dans un pénitencier fédéral,
Fédéral, ouais.
où il y a des thérapies, où il y a toutes sortes de programmes de mise en charge, de prise en charge, mais s'il participe pas, il peut faire sa peine au complet, là. Et même être assujetti à des mesures de contrôle très sévères après coup. Mais c'est vrai que dans bien des cas, le sénateur Boisvenu a raison, les libérations conditionnelles viennent pas mal vite et les victimes s'en plaignent et le public s'en plaint. Les gars sont condamnés à X années de prison, puis à un moment donné, t'y retrouves au restaurant, t'y retrouves à la pharmacie, le grand sourire. Alors, des fois, on se demande à quoi les tribunaux servent, puisque les condamnations, en principe, sont celles qui devraient être purgées au complet. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on devrait faire le temps au complet. Si le juge a dit 8 ans, c'est 8 ans, puis c'est pas 8 ans moins un jour, c'est 8 ans ferme. Mais avec tout le système de libération conditionnelle qu'on a au Canada, c'est tout à fait décourageant. Mais je pense pas qu'il sorte après 2 ans, parce que pour qu'il fasse, je pense qu'il va faire au moins 2/3 de sa peine, mais en tout cas, on verra bien.
Puis, moi, j'aime beaucoup lire, bon, la couronne. Bon, qu'est-ce que la couronne demande dans le cas pour que, tu sais, je sais pas, ils veulent-tu 5 ans, ils veulent-tu 10 ans, ils veulent-tu 8 ans? Puis, dans le cas-ci, j'ai lu la déclaration de la défense. La défense demandait une peine de 2 ans de détention, 2 ans moins un jour, parce que la défense jugeait que c'était beaucoup plus approprié, compte tenu notamment du statut de résident permanent de Romuald Andy Amman, qui est originaire de la Côte d'Ivoire, qui pourrait être révoqué. La défense plaidait également qu'une lourde peine pourrait s'avérer inconstitutionnelle envers la personne. Je veux pas vivre, moi, dans un monde où on fait une différence de peau, là.
Non, puis moi, je pense que ça devrait être le contraire, parce que le gars, là, il est ici, on l'accepte au Québec, au Canada, en vertu des règles d'immigration, on est généreux, on l'accueille ici parce qu'il veut fuir son pays pour des raisons probablement de violence ou de culture. Il arrive ici alors que son statut est précaire, puis il embobine 2 petites filles, prostitution, organisation d'un réseau, exploitation sexuelle. Écoute, là, c'est quoi cette affaire-là? Puis il va demander, en plus de ça, un assouplissement parce que son statut est précaire. Pas en tout. Au contraire, s'il est condamné, puis si son statut est précaire, puis qu'on le retourne chez eux, mais ça sera ça. Mais moi, je souhaite au moins qu'il fasse tout son temps dans un pénitencier canadien. Après ça, on discutera de son statut. Mais je comprends pas comment on peut essayer de bénéficier de cette particularité-là pour obtenir une peine moins sévère, puis je pense d'ailleurs que la juge n'en a pas tenu compte avec raison.
Effectivement,
C'est un
mais
bon jugement.
de voir que l'avocat de la défense, Maître Gabriel Michaud-Brière, demande ça, ah, peut-être juste 2 ans moins un jour, ça ferait, parce que vous savez, il est originaire de la Côte d'Ivoire, vient pas d'ici, c'est un résident permanent, puis on pourrait y révoquer. Moi, je veux pas faire de différence entre un blanc ou un noir ou un chinois ou quelqu'un qui provient, je sais pas moi, un arabe. Tiens, je veux pas que quand un juge a quelqu'un devant lui qui est accusé d'un crime, je veux pas qu'il regarde sa couleur de peau, je veux qu'il regarde le crime puis que la sentence soit associée au crime qu'il a fait. Mais là, de
Oui.
voir que des avocats de la défense essayent de s'en sortir, ah, mais vous savez, pauvre petit, tu sais, il vient d'ailleurs, il est ici, il s'est pas encore acclimaté, faudrait y pardonner. Il faudra avoir une sentence moindre que si c'est un blanc, exemple. Je trouve ça particulier.
Ouais, puis on peut tolérer bien des singularités ou bien des travers de gens qui viennent d'autres pays où il y a des mœurs, où il y a des coutumes, des cultures fort différentes, surtout en matière d'égalité homme-femme ou d'inégalité homme-femme ou de pratiques sexuelles et même de violences sexuelles. On sait que il y a des pays dans le monde, Asie du Sud-Est, Afrique, où c'est particulièrement difficile pour les jeunes filles et pour les femmes. Mais ici, on peut être fier d'avoir des pratiques et des lois qui, en principe, sur papier du moins, tiennent compte. Et font la promotion de la l'égalité homme-femme, puis de la protection des enfants. Puis là, qu'on nous serve ce genre d'argument-là, je trouve ça particulièrement odieux. Et ben, je dis pas que dans certains cas, ça marche pas, parce qu'on a déjà vu des juges prononcer des peines qui étaient plus clémentes à cause de ça. Puis on se souviendra de Simon Houle, notamment, qui est un Québécois d'origine qui avait bénéficié de certaines largesses du juge Poliquin,
Parce qu'il est
Mathieu
ingénieur.
Poliquin, je pense, l'ingénieur. La cour d'appel a cassé ça. Lui, ce qu'il invoquait, c'était le fait qu'il pouvait pas se promener, qu'il pouvait pas voyager comme ingénieur. Alors, tout ce genre de situation-là. Mais si tu le sais, tu es ingénieur puis que tu dois te promener, ben justement, une raison de plus pour garder les mains dans tes poches, tu sais. Puis si tu sais que ton statut d'immigrant est précaire, ben c'est une raison de plus pour pas faire de proxénétisme, qui est un crime extrêmement grave. C'est peut-être dans la pyramide des crimes sexuels les plus importants, parce que on organise un réseau ou un système d'exploitation sexuelle pour des enfants ou pour des jeunes adultes. Alors, c'est particulièrement odieux. C'est pas juste une agression isolée. C'est que, quoi que c'est pas plus acceptable, mais le proxénétisme, c'est vraiment d'organiser un système d'exploitation qui te rapporte de l'argent sur le dos de l'exploitation sexuelle de jeunes filles. Alors, on n'est pas dans les ligues mineures, là, on est dans les ligues majeures. Et s'il y a quelque chose qu'on doit réprimer, c'est bien ça. Et surtout chez un arrivant d'un pays d'Afrique, s'il y a quelque chose qui est assez élémentaire à respecter, c'est bien ça. Alors, en dedans, pour plus sacrant, puis le plus longtemps possible.
Voilà. Donc, là, ce qu'on dit dans l'article, c'est qu'il a déjà purgé 1 an et 8 mois, ce qui resterait à peu près 6 ans à faire. Mais là, en discutant avec Boisvenu ce midi, sénateur Boisvenu nous a dit oh, à peu près 2 ans, 2 ans et demi, on devrait le revoir. Souhaitons qu'il reste en dedans le plus longtemps possible. Maître Bellemare, je ne sais pas, vous, de votre côté, comment ça se passait quand vous étiez plus jeune, jeune garçon. Moi, j'en ai fait part à mon équipe du midi. On ne m'a pas appris à nager, moi. On ne m'a pas payé de cours pour que je puisse faire de la natation et tout ça. C'était vraiment à la bonne franquette, c'est-à-dire il y avait une piscine, tu avais un mononcle un peu taré qui te prenait, il te regardait dans les yeux puis il te disait « Madame, c'est aujourd'hui que tu vas apprendre à nager » puis il te pitchait dans le milieu de la piscine puis là, ben, tu apprenais à revenir sur le bord comme un chien, tu sais, à la méthode de... à la méthode comme un petit chien qui essaie de sauver sa vie. Puis c'est comme ça que des gens de ma génération, je pense pas être le seul, on a appris à nager. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on... Tu sais, malgré le fait que moi, de mon côté, avec la mère de mes gars, on leur a appris très tôt à nager parce que les enfants sont nés sur le bord d'un lac, c'était notre crainte, ça, que nos enfants se noient. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est pas une priorité des gens de montrer à leurs enfants à nager.
Oui, je pense que ça ne l'a jamais été, effectivement. Puis pourtant, au Québec, on a des plans d'eau tout partout. On a des rivières, on a des lacs, on a le fleuve, on a beaucoup de piscines et... Tu sais que j'ai vu ça sur un site aujourd'hui, Statistique Canada rapportait qu'au Québec seulement, en 2021, puis on est en pleine pandémie, il faut comprendre, c'est peut-être une année exceptionnelle parce qu'on se souvient que pendant la pandémie, il y a beaucoup de gens qui ont fait des travaux à la maison, ils en ont profité pour refaire le patio, la couverture, parce qu'on était pognés à la maison, fait que pourquoi pas en profiter pour faire de l'amélioration, surtout qu'on était pris dans notre nid domiciliaire, alors on apprenait peut-être à trouver quelques défauts. Mais il y a quand même eu, en 2021, 16 000 permis de piscines creusées au Québec seulement. Alors, ça veut dire qu'il y a beaucoup de piscines. Puis quand tu atterris à Québec, ça s'était sûrement déjà arrivé, atterris directement à Québec, ouais, le jour, tu envoies des ronds bleus partout. Hein? Ouais. Là, c'est là que tu réalises qu'il y a beaucoup de piscines partout, au centre-ville, banlieue, rive nord, rive sud. Il y a beaucoup de piscines, mais effectivement... Il y a beaucoup de gens qui sont de piètres nageurs. Moi, je ne considère pas que je suis un bon nageur, mais il reste qu'au moins je suis un adulte et je suis capable d'évaluer le risque peut-être plus qu'un enfant de 4 ans. Mais c'est non seulement tes propres enfants que tu le plus possible à qui tu dois montrer à nager puis inscrire à des cours parce que c'est relativement facile dans les camps de vacances, dans les services municipaux. Il y a partout des cours de natation à des prix vraiment ridicules. Dans bien des cas, ça ne coûte rien, mais c'est une nécessité. Puis quand tu as une piscine, puis que tu reçois des petits amis chez vous, là, puis tu fais des parties, informe-toi à savoir s'ils savent nager, les amis, parce qu'on prend pour acquis, on s'occupe de nos enfants, ouais, mais ils sont 6, puis même des fois, c'est 12, puis 13 ans, puis 15 ans dans la piscine. Là. Ça ne veut pas dire qu'ils savent plus nager, ça n'a rien à voir avec l'âge. Là. Alors, c'est important parce que tu es responsable des gens qui viennent se baigner chez toi,
ouais,
au niveau de la responsabilité civile.
Quand il y a un party, nous autres, on s'était rendu compte que, tu sais, quand on faisait un party familial puis on invitait des amis aussi avec les enfants, on avait comme cette fausse impression-là que comme il y avait plus de yeux pour surveiller, les enfants étaient un peu plus en sécurité. Mais c'était pas ça pendant tout, Maître Bellemare. C'était vraiment que quand on est une gang de parents... Ben, on fait comme confiance aux autres parents, puis on est moins alerte sur ce qui se passe autour de nous autres. T'sais. Alors que quand on est seul avec 6 enfants, ben là, on surveille ce que les 6 enfants font. Mais quand on est en gang, des fois, on a cette tendance à oublier ça. Puis ce qu'il a dit, discuté avec nous sur l'heure du midi, c'est que peut y avoir un truc. T'sais. Ils peuvent dire, bon, ben regarde, là, c'est toi qui surveilles les enfants pendant une demi-heure, puis après ça, je prendrai la relève. Mais tu sais, cela dit, des trucs parfaits, il n'y en a pas. Mais la base, c'est de montrer à nos enfants comment nager pour que des événements tristes comme il s'est passé à Québec samedi, pour que ça arrive jamais. Je comprends que le noyade zéro, là, en bout de ligne, ça n'existera pas. Il va toujours y en avoir. Mais tu sais, une de moins, essayer de réduire ça le plus possible, ça ferait pas de tort, je pense. Puis on parle d'un jeune bambin de 4 ans qui a perdu la vie dans une piscine de résidence. C'est la 28e noyade dans la province en 2023. C'est 6 fois plus que l'année dernière à pareille date.
Oui. Puis, le gouvernement du Québec a mis en place une réglementation qui n'est pas encore en vigueur.
Oui.
Qui devait l'être le 1er juillet 2023, donc qui devait l'être pour cet été, pour tous les bâtiments résidences d'avant 2010. Parce que depuis 2010, si tu te construis, tu es obligé d'avoir tout un kit, surtout pour les piscines creusées, et c'est assez cher, ça peut facilement dépasser le 10-15 000 piastres, parce que tu as besoin d'une clôture autour de ton plan d'eau creusé. Quand c'est une piscine hors terre, c'est moins compliqué, parce que forcément, elle est hors terre, donc un enfant de 4-5 ans ne sera pas capable de monter. Fait que là, tu as toute une procédure dans la réglementation pour t'assurer que les accès sont barrés. Alors, la plupart des parents ont accepté de faire ça, mais si tu as une bâtisse qui a été construite en 2008, il y a des droits acquis, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé encore de mettre la clôture puis toute l'installation. Alors, le gouvernement a reporté l'obligation là, qui devait avoir lieu, la réglementation qui devait être en vigueur le 1er juillet 2023 au 30 septembre 2025. Ça veut dire qu'il y a encore 2 ans, mais pour septembre 2025, j'espère que ça ne sera pas reporté encore parce que je ne veux pas faire d'association entre les noyades nécessairement et les clôtures, là, surtout pas dans le cas de l'événement qui est arrivé samedi passé parce que je ne connais pas tous les faits. Mais il reste que l'obligation de clôturer une piscine et d'empêcher l'accès aux enfants d'une piscine, on sait combien l'eau attire les enfants. Les enfants adorent se baigner. C'est une activité très prisée chez les enfants. L'eau, la couleur, les reflets, tout ça est extrêmement intéressant, très attirant pour des jeunes enfants. Puis un enfant de 3-4 ans, ça marche, ça se déplace, ça grimpe, c'est capable d'accéder aux plus hautes structures. Et écoutez, c'est pas parce que le règlement va être en vigueur le 30 septembre 2025 que comme parent ou comme propriétaire d'une piscine, vous n'avez pas une certaine obligation morale de bien clôturer les lieux et d'empêcher les enfants d'avoir accès au plan d'eau. Parce que votre surveillance ne suffit pas. Les chiffres nous disent que 85 % des enfants de moins de 5 ans qui se sont noyés l'année passée, c'est un problème de supervision, c'est un problème de surveillance. Et ça prend 15-20 secondes de distraction, le téléphone sonne, quelqu'un sonne à la porte, t'es en train de faire une sauce à spaghetti, n'importe quoi, le bébé passe en arrière de toi, il a vu le trou, il a vu la place, lui, il t'a pas demandé la permission, il s'en va là, puis il est dans l'eau, puis au bout d'une trentaine de secondes, c'est réglé. Alors, c'est très précaire, mais on le dira jamais assez, vérifiez vos plans d'eau, vérifiez vos piscines, puis assurez-vous qu'il n'y a pas d'accès. Pour vos enfants, comme pour les voisins, vous savez, vous avez des petits voisins là qui se promènent autour, là, puis les terrains sont pas clôturés, c'est une petite haie. Là. L'enfant, lui, il se promène, il est un peu écarté, il est dans sa bulle, puis à un moment donné, on le retrouve dans l'eau, puis il est noyé. Alors, c'est l'obligation de bien clôturer les lieux, c'est important. Pas juste pour votre obligation morale face aux enfants, pour votre obligation civile aussi, parce que vous êtes responsable du plan d'eau, puis vous pourriez être poursuivi si jamais vous avez eu un plan d'eau qui n'était pas suffisamment protégé et que vous saviez qu'il y avait des enfants autour. Mmh. Alors, très, très important de bien s'assurer que cette obligation-là, même si le règlement n'est pas encore en vigueur, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas responsable s'il arrive un drame.
Parce que dans ce cas-ci, Maître Bellemare, bon, c'est la 28e noyade dans la province. On parle de samedi soir, 21h30. Donc, un enfant de 4 ans. Il semblait y avoir des festivités dans la maison. À l'extérieur, c'était de la pluie, là. C'était de la pluie battante. Il faisait à peu près 12 degrés. C'est difficilement explicable. Les enquêteurs de l'unité des crimes graves se sont déplacés. Pour l'instant, bon, on n'a pas plus d'informations parce que les enquêteurs veulent faire la lumière sur ce qui s'est passé. Mais ce qu'on nous confirme, c'est que les fameuses clôtures qu'on demande là, à ceux qui ont justement des piscines, ce qu'on nous confirme, c'est que toutes les clôtures étaient là, là. Fait que l'enfant a réussi à déjouer le système de sécurité qui avait été mis en place, puis malheureusement, il s'est noyé.
Ouais, c'est sûr qu'on ne peut pas tout prévoir, puis il y a des événements qui vont survenir malgré toutes les précautions qu'on peut prendre, mais ce que je dis, c'est que si vous avez une piscine, surtout une piscine creusée aujourd'hui, là, puis que vous n'avez pas de clôture autour, là, watch out. Moi, je pense que vous devriez essayer de trouver une place dans votre budget pour installer des mécanismes là, de protection parce qu'il y en a beaucoup de noyades, effectivement. Les enfants sont dégourdis. Puis là, on a eu une température pas trop, trop belle au mois de juin. Imagine s'il avait fait beau, puis si les piscines avaient été ouvertes partout. Mais là, on rentre dans une ère où probablement il va faire un peu plus chaud, juillet et août. Puis soyez très prudents. Puis si vous avez des travaux que vous avez prévus pour 2025, c'est peut-être le temps de les rapprocher parce que moi, j'ai l'impression que si le gouvernement a reporté l'implantation des règles sur les clôtures de piscine, la réglementation, c'est pour des raisons économiques, c'est parce que ça coûte cher. Puis quand, c'est sûr que si tu travailles fort, tu n'as pas beaucoup d'argent dans la maison, puis on t'oblige à avoir des travaux, à mettre en place des travaux qui vont coûter 10-15 000 piastres, c'est sûr que c'est pas facile. Mais en même temps, si tu as une piscine ou tu achètes une piscine, bien, sache qu'il y a des obligations. Puis c'est important aussi, les acheteurs de maisons, là, si vous êtes en train de négocier pour une maison avec une maison qui a été construite avant 2010, puis il n'y a pas de clôture autour de la piscine, sachez que d'ici 2 ans, vous allez devoir mettre 15 000 piastres de plus pour la piscine, là. J'espère que les courtiers vous l'ont dit, parce qu'il y a une obligation qui va s'appliquer à tous les propriétaires de maisons avant 2010, parce que depuis 2010, c'est automatique. La réglementation s'applique, mais là, c'est juste les plus vieilles maisons qui datent d'au moins 15 ans, là, où il y a des droits acquis qui sont reportés encore jusqu'en 2025.
Ouais, puis sur Amazon ou dans toutes les bonnes boutiques là, où on veut vous vendre des piscines ou des produits de piscine, il y a toujours un système d'alarme de piscine qui coûte entre 500 et 600 $. Puis vous mettez ça dans l'eau, puis à partir du moment où il y a un mouvement d'eau trop prononcé, bien, vous êtes averti. C'est un 500 à 600 $ qui pourrait quand même être bien investi si ça peut sauver la vie d'un enfant. Maître Bellemare, je savais pas s'il y a un party d'amis à la maison, puis il y a une piscine qui est dans le centre de ce fameux party-là, puis tout le monde s'amuse, puis il y a une noyade. Les propriétaires de la maison, propriétaires de la piscine, peuvent être poursuivis dans le cas de négligence?
Ils peuvent être poursuivis, mais si les parents sont là, l'obligation parentale, c'est d'assurer la sécurité des enfants. Mais si, par exemple, tu fais un party de fête pour un de tes gars, puis tu es tout seul avec ta blonde ou tu es tout seul, puis tu as 6 enfants ou 7 enfants qui se baignent, t'es responsable. Si les parents sont là, c'est à eux à s'occuper de leurs enfants, mais toi, tu es responsable de ta piscine, bien certainement. C'est la même chose que n'importe quel jouet. T'sais, si tu permets à des enfants de se promener avec des 4 roues ou avec des jouets électriques, quoi que ce soit, puis arrive un drame, tu es responsable. Bien sûr que tu es responsable de tout ce qui se passe dans ta maison, mais si vous êtes, c'est pas moins 4 couples, avec 6 enfants, bien là, chaque parent doit s'occuper de son style en principe. Bien que s'il y a des anomalies au niveau de la piscine, à un moment donné, s'il y a une brique qui tombe ou s'il y a une marche qui casse puis qu'il y a un enfant qui se blesse, c'est toi qui es responsable, comme dans n'importe quelle situation, mais tu es responsable certain.
Ça, c'est vraiment les assurances de maison qui payent?
Bien, ça peut être l'assurance de maison, mais des fois, ça arrive que ton assurance couvre pas ça, ou il y a des gens qui sont pas assurés aussi pour les résidences principales. On est obligé d'assurer notre véhicule automobile parce que la société de l'assurance automobile, la loi sur l'assurance automobile l'exige. Mais au niveau de ta résidence personnelle, tu n'es pas obligé de l'assurer. Alors, il y a des gens qui sont carrément pas assurés, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont pas responsables. L'assureur, il prend ce qu'on appelle fait et cause de l'assuré quand il y a des poursuites civiles. Par exemple, si quelqu'un se blesse sur ton terrain et tu es poursuivi, normalement, l'assureur va prendre fait et cause, puis il va te défendre devant un tribunal, puis il va assurer les services d'un avocat. Puis en cas de condamnation, il va payer. Mais c'est comme je te dis, là, c'est pas tout le monde. Il y a des gens qui n'ont aucune assurance de responsabilité habitation. Puis c'est pas toutes les assurances habitation qui prévoient des clauses de responsabilité civile dans ces cas-là. Alors, faut savoir que si tu reçois qu'il y a des gens chez vous qui arrivent des problèmes, puis que tu as été insouciant ou négligent, ou que tu n'as pas assuré une supervision adéquate, tu peux être facilement condamné, bien sûr.
Particulier, c'est particulier. Mais je savais pas qu'il y a des gens qui étaient pas assurés pour l'exemple, la piscine. Là. Je veux dire, c'est le genre d'assurance que ça te prend, parce que c'est le genre de choses qui peut te conduire à la faillite. Là.
Si ouais, jamais mais comme je te dis, l'assurance habitation, c'est pas obligatoire. Sur l'assurance automobile, c'est obligatoire pour ta responsabilité que tu aies une police. Si tu roules sur le chemin, faut que tu sois assuré si jamais tu causes un dommage important, que ce soit matériel ou corporel. Dans les cas où la SAC ne s'appliquerait pas, évidemment. Mais ça, c'est les règles de sécurité routière. Mais Au niveau résidentiel, il n'y a aucune loi qui oblige quelqu'un à s'assurer pour sa maison. Et puis, s'il arrive un feu que tu n'es pas assuré ou quoi que ce soit, tu vas payer pour. Tu vas avoir une perte sèche. Puis si tu causes un dommage, mais tu t'exposes à des poursuites en responsabilité. Bien sûr, dans des cas de noyade, ça peut forcément arriver. D'ailleurs, c'est arrivé, je ne sais pas comment ça s'est réglé, cette histoire-là, mais je ne sais pas si tu te souviens, je pense que c'est l'année passée, à la base de plein air de Sainte-Foy. Il y avait un petit bonhomme qui était là, qui était, je pense, qui était un nouvel arrivant
Un
au
nouvel
Québec,
arrivant, ouais.
qui ne savait pas nager du tout. Et puis, il a participé à une activité scolaire à la base de Sainte-Foy. Et puis, on l'a retrouvé au fond de l'eau. Puis là, je pense qu'il y a eu des poursuites autour de ça, là, qui ont été engagées contre l'école, contre l'institutrice, manque de surveillance, manque de planification. Encore là, il avait pris pour acquis que tout le monde savait nager. Tu sais, je veux dire, t'es pas obligé de passer un test de natation formel, mais au moins de t'informer auprès des parents, est-ce que votre enfant sait nager? Parce que tes parents sont pas là quand l'activité scolaire a lieu. C'est l'école qui prend à sa charge toute la responsabilité, toute la supervision des enfants. Puis en cas de défaut ou d'accident, ben c'est l'école qui va être obligée de justifier sa conduite devant les tribunaux.
Eh bien, vous m'en apprenez, Maître Bellemare. Moi, j'étais persuadé que c'était une obligation pour ce qui est de des assurances, là, avec ton hypothèque. Là. Si c'était une hypothèque pour ta maison, il fallait absolument que tu sois assuré. Puis je me disais que ton prêteur hypothécaire vérifie une fois de temps en temps si tu étais assuré ou pas, là.
Ben, il y a effectivement, quand tu as des prêts hypothécaires, le prêteur hypothécaire peut avoir des exigences. Ça
OK.
dépend du prêteur, mais c'est pas la loi qui t'impose ça, c'est contractuel. Donc, c'est quand tu empruntes, il peut y avoir des obligations de ce type-là. Mais l'obligation d'assurer ta maison, oublie pas que pour le prêteur hypothécaire, lui, ce qu'il veut, c'est que tu aies du bacon si jamais le feu pogne, comprends-tu? C'est ça qu'il veut, là. Lui, il veut pas perdre sa garantie.
Exact.
Puis si tu as une hypothèque de 75 000, que le feu pogne, puis tu perds ta maison, puis tu n'as plus de garantie, puis que tu as une job précaire ou que tu n'as pas de job pantoute, mais lui, il ne sera jamais payé. Puis là, ça ne l'intéresse pas de ramasser un terrain vacant avec du bois brûlé dessus. Alors lui, il va s'assurer que tu vas peut-être avoir une forme d'assurance en cas de responsabilité ou en cas de destruction du bien, parce que sa seule façon d'être payé, c'est ou bien la maison qu'il va récupérer si tu ne payes pas, ou bien ton revenu. Que tu vas être capable, avec lequel tu vas être capable d'assurer le respect de tes obligations hypothécaires, mais ça ne veut pas dire que tu as une obligation de t'assurer au niveau de ta responsabilité civile. Et souvent, ce n'est pas ça qui va être l'exigence du prêteur hypothécaire. Mais ça varie d'un cas à l'autre, mais la loi ne l'exige pas.
Avez-vous entendu parler du meurtre qui a eu lieu dans le secteur, en fait, du Mont-Tremblant? Une femme, une Philippine d'origine, qui venait tout juste de connaître son mari. En fait, ça datait depuis 2019 où ils se sont rencontrés aux Philippines. Ils se sont mariés très rapidement, on connaît l'histoire. Il y a une grosse différence d'âge entre elle et lui. Lui est autour de 80 ans et elle est autour de 50 ans. Et à partir du moment où la femme vient vivre au Canada, plus précisément au Québec, ben elle devient complètement son esclave. Et finalement, le monsieur n'étant plus capable d'endurer les sorties où sa femme allait juste travailler, a décidé de la tirer dans son sommeil. C'est d'une tristesse, cette histoire-là. C'est épouvantable.
Oui, c'est ça. C'est la presse en fin de semaine qui parlait de. Mais on a peine à s'imaginer des situations. Moi, j'en reviens pas. C'est sûr que l'actualité, ça va vite. Mais tous les jours, je lis des affaires, je me dis que ça a quasiment pas de bon sens. Et comment ça se fait qu'on a laissé faire ça? Comment ça se fait qu'il n'y a personne, pas de famille, pas de voisins, personne qui a alerté ou qui a vu des choses bizarres? Moi, il me semble que si. C'est sûr qu'aujourd'hui, on est très individuel, hein? Chacun dans sa petite tour, puis on n'est pas dans les années 20 où tout le monde se connaissait dans le village, puis tout le monde connaissait les travers de tout le monde, puis on s'assurait que nos enfants, s'ils se mariaient, qu'ils se mariaient avec quelqu'un de bonne famille, puis tout se savait. Aujourd'hui, à l'ère des communications, où on est supposé communiquer puis avoir plein d'informations partout, Facebook, les réseaux sociaux, il se produit des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont assez intelligents dans leur perversion pour se terrer, puis être à l'abri de tout, puis commettre les actes les plus épouvantables sur des enfants, sur des femmes, sur des immigrants, puis les transformer en véritables esclaves. Puis, écoute, moi, j'en reviens pas. Je me demande comment c'est possible dans la société d'aujourd'hui de voir que des situations comme ça se produisent au Québec. En tout cas, regarde, on a vu d'autres exemples de perversion, la petite fille de Granby. Il y en a plein, mais tu sais, c'est quand même, faut être vigilant, puis il faut pas hésiter à dénoncer si on voit des choses qui sont particulières ou si on voit des cas de violence. Moi, je pense qu'il faut avoir la mèche courte par rapport à ça.
Mais les fonctionnaires, là, quand ils évaluent une demande pour faire venir une personne qui vient d'un pays extrêmement pauvre, ils prennent pas ça en considération. Ils essaient pas, je sais pas moi, de faire passer un test psychologique au mari qui veut faire venir sa jeune Philippine en sol canadien. Ils regardent pas ça. Y a-tu vraiment de l'amour dans cette histoire-là ou c'est vraiment une esclave qui veut au Québec pour qu'elle puisse s'occuper de lui? Parce qu'il faut le dire que l'homme avait de la misère à se mouvoir. Il était en chaise roulante. Il était malade et quand elle est arrivée ici, ben tout de suite, elle s'est transformée en aidante naturelle. Et en plus, ben, elle devait aller travailler aussi pour ramener de l'argent à la maison. C'était carrément une esclave.
Oui, c'est ça. Mais tu sais, quand c'est des adultes, là, les règles au niveau de l'immigration, ils sont, bon, ils posent beaucoup de questions, ils veulent savoir d'où tu viens, puis tout ça. Mais tu sais, si tu es parrainé par quelqu'un, toi, tu veux faire venir quelqu'un, que ce soit pour travailler. Ou maintenant, tu te maries avec quelqu'un dans un autre pays, puis tu fais venir la personne. Les règles d'immigration depuis Pierre-Elliott Trudeau sont axées sur la réunification des familles. Puis on essaie de faire en sorte, surtout s'il y a eu un mariage, faire en sorte que la parenté, la famille soient réunies, que les enfants puissent venir ici. Puis les règles d'immigration sont très facilitantes de ce côté-là. Puis une fois que tu es arrivé ici, bien là, il n'y a pas de protection de la jeunesse pour des adultes. Puis à l'intérieur du couple, ben, il y a une protection, une certaine intimité, une certaine confidentialité. Puis on peut pas tout gérer, puis on peut pas tout faire. Puis à partir du moment où la personne est arrivée ici puis qu'elle travaille, on prend pour acquis que tout est correct. Puis on sait pas ce qui se passe dans la maison. Mais écoute, c'est d'une tristesse infinie. Et rajoute à ça là, toute la pudeur qui est associée à l'immigration aussi. Tu sais, bon, faut pas trop critiquer. Faut pas trop regarder t'sais, la violence qui peut se manifester au sein d'une famille avec des traditions culturelles très fortes et très, 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 très austères et très discutables aussi, où il y a de la violence qui se fait par rapport aux femmes particulièrement. Bon, on va dire, ouais, mais là, vous savez, chacun sa culture, liberté de religion, liberté de ci, liberté de ça. Rajoute tout ça là-dessus, puis c'est sûr que ce genre de déviance-là peut se manifester, puis il peut y avoir des atrocités qui sont commises. Quand on parle d'esclavage, là, c'est sûr que la traite humaine est interdite par le code criminel, mais quand est-ce qu'on devient un esclave, quand est-ce qu'on ne l'est pas, tu sais? Moi, j'ai vu des fois des familles, surtout des familles, il y a bien des générations, où on aurait pu parler d'esclavage facilement, mais tu sais, quand est-ce que... Puis il y a peut-être aussi des couples qui trouvent ça normal que ça se passe comme ça, qu'il y a autant d'inégalités entre l'homme et la femme. Alors, quand est-ce que ça devient criminel? Quand est-ce que ça devient illégal? Souvent, c'est quand le coroner se présente, tu sais.
Parce que, tu sais, comme elle, bon, c'est une Philippine, elle vient des Philippines, elle parle pas français, elle parle pas anglais, elle arrive ici, elle est complètement isolée. Il n'y a pas personne qui peut l'accompagner, justement, pour lui expliquer, bon, ben, c'est quoi de la violence conjugale, voici les ressources si jamais votre conjoint a un comportement qui est répréhensible envers vous, voici ce qu'est un comportement répréhensible au Canada. Il n'y a pas de ce genre de ressources-là. Ces filles-là viennent, sont dans un pays où ils ont de la misère à subvenir à leurs besoins. Ils arrivent ici, pensent rencontrer quelqu'un de bien qui va subvenir à ses besoins. Finalement, il y a une transformation totale qui se fait, puis l'homme l'utilise. J'espère qu'ils sont épaulés. En tout cas, dans son cas, elle ne semblait pas être très épaulée, elle était très isolée. Puis son mari prenait emprise sur elle. Mais je comprends pas comment on peut laisser faire ce genre d'association-là sans vérifier s'il se passe pas quelque chose à l'intérieur, là.
Ouais, mais tu sais, comme je te dis, c'est à l'intérieur d'un couple. Là. Il y avait toutes les. Probablement que le bonhomme avait tout planifié son affaire.
Ben
Là.
oui.
Il savait très bien que ce qui se passait à l'intérieur de la maison n'allait pas être connu. Je dis pas qu'il n'y a pas des mécanismes de vérification au niveau de l'immigration, mais si elle n'a pas porté plainte, si personne n'a porté plainte autour d'elle, c'est à l'intérieur du couple. C'est quand même une cellule protégée. Et s'il n'y a pas là, des mécanismes, un groupe, là, une association qui va s'occuper de l'intégration d'un immigrant. Mais à partir du moment où il est marié, à partir du moment où c'est un couple, bien, tout le monde prend pour acquis que c'est le bonhomme qui gère ça, puis que c'est correct, puis qu'il fait sa job, puis on n'entend pas parler de rien. Alors, les conditions étaient gagnantes.
Êtes-vous toujours là, Maître Bellemare? Je pense qu'on a perdu Maître Bellemare. Donc, on va faire une courte pause, puis on va tenter de rétablir la communication avec Maître Marc Bellemare, qui est avec nous à chaque lundi. 88-971-1021, 88-971-1021. C'est par texto, si vous avez des choses à nous dire. On vient.
Marceau, le soir. Ce segment d'émission, présenté par Enviro-Confort. Cet été, profitez des meilleurs rabais pour vous procurer votre thermopompe ou votre climatiseur. Enviro-Confort.com.
C'est pas pour rien qu'ABBA, c'est le choix du consommateur depuis plusieurs années. Nos estimations sont gratuites, nos interventions sont rapides. Chez ABBA, on vend du résultat. Il y a plus de 1000 avis en ligne qui prouvent que notre solution, ben, elle fonctionne. ABBAExtermination.ca. Ou appelez-nous maintenant au 666-6667. ABBA, une solution définitive.
Vous aimez le challenge, mais pas trop physique? Tout l'été chez Dooley's, pratiquez votre billard tant que vous voulez pour seulement 14,60 plus taxes. À partir de 16h du dimanche au mercredi. Juste besoin de bonnes stratégies pour gagner chez Dooley's.
S'amuser, boire et manger.
Choisir Mazda, ce n'est pas juste faire l'un des meilleurs choix en matière de sécurité, de confort et de qualité de finition. C'est aussi faire l'un des meilleurs choix en matière de meilleurs choix. Oui, cette année encore, les Mazda 3, CX-30 et Mazda CX-5 ont tous été nommés meilleurs choix de leur catégorie selon Protégez-vous. Que vous cherchiez fiabilité, style ou plaisir de conduire, venez tomber sous le charme du meilleur choix chez votre concessionnaire Mazda. C'est Protégez-vous qui le dit.
Miller Climatisation, vos spécialistes en climatisation thermopompe depuis plus de 55 ans. Distributeur Mitsubishi électrique, la thermopompe la plus fiable selon Protégez-vous. Miller Climatisation vous offre une gamme complète de produits pour assurer votre confort cet été. Profitez d'un rabais postal de 300$ jusqu'au 15 juin. De plus, si applicable, obtenez jusqu'à 6275$ de subvention et un financement à 0%. Renseignez-vous au 670 rue Bouvier et à notre nouvelle succursale Miville à Saint-Georges-de-Beauce. Miville.ca.
Sortez votre casque et huilez votre chaîne. Du 25 au 27 août aura lieu la 19e édition du Raid Bras du Nord Promutuel Assurance. Entre collègues et amis, relevez le défi Entreprise Saputo dans une compétition amicale de vélo de montagne. Détails au raidbrasdunord.com.
Avant la pandémie, j'étais déjà financièrement. Quand j'ai perdu mon emploi, tout a chaviré. J'arrivais plus à faire mes paiements minimum. Heureusement, Roy Métivier Roberge ont pris une entente avec mes créanciers. Je fais des paiements sans intérêt et ça a été réglé confidentiellement.
Chez Roy Métivier Roberge, leur priorité est de trouver rapidement des solutions adaptées à votre situation pour vous aider à redresser vos finances et même éviter la faillite, car c'est vous avant tout. Visitez rmrsyndic.com. Roy Métivier Roberge syndic autorisé en insolvabilité.
Boulevard 102, 100% Québec. On vit pour le rock. Boulevard.
Une propre. Propriété Leclerc Communication.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Comme à chaque lundi soir, on passe la soirée avec Maître Marc Bellemare. Vous avez des choses à nous dire, vous avez des opinions, ça vous tente de nous les partager. C'est le 418-971-1021 par texto, 418-971-1021. 18h38, c'est 18 degrés sur Québec, c'est très confortable. Il me semble que ça fait du bien, Maître Bellemare, avec la semaine dernière qu'on a connue, là, c'était très ordinaire. Là, on dirait que la semaine est partie du bon pied.
Ouais, puis je dirais, la semaine, moi j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'il fait pas beau. écoute, je comprends. En tout cas, j'espère qu'on va avoir un beau mois de septembre, que le soleil va nous attendre un peu plus tard à l'automne, parce que en tout cas là, on va avoir une belle semaine, on va en profiter, même si c'est des jours de semaine, le barbecue c'est le temps. Tout le monde, sortez dehors, allez prendre l'air parce que le moral va être meilleur.
Le mois de juin a effectivement pas été facile, mais savez-vous quoi? On va s'en sortir, j'en suis persuadé. On voit toujours la lumière au bout du tunnel. Regardez, hier à Montréal, pendant le Grand Prix, il y a eu un genre de 3-4 heures de soleil, là, puis ça a bien été. On a réussi à avoir un beau Grand Prix. On a battu un record à Montréal d'achalandage pour le Grand Prix, malgré le fait que les médias commencent à se mettre contre le Grand Prix du Canada. Les gens ordinaires comme vous et moi, nous autres, on continue à fonctionner. Puis s'il y a un bel événement qui arrive, on y va sans nécessairement abuser des autres personnes. C'est rendu quasiment un crime aller au Grand Prix, Maître Bellemare.
Oui, c'est ça. Mais il y a une question financière qui se pose. Je ne sais pas si actuellement, là, les gouvernements... Moi, je me souviens, quand je suis au Conseil des ministres, c'est toujours un débat chaque année de savoir si on continuait de mettre de l'argent, parce qu'il y a beaucoup de fonds publics dans le Grand Prix. Mais ça rapporte de l'argent, mais c'est de plus en plus difficile de savoir exactement ce que ça rapporte. Moi, c'est le côté financier. C'est pas le côté pollution puis touristes à Montréal, parce que Montréal est une grande ville internationale qui a besoin de touristes, qui a besoin d'argent. Et puis, mais je pense que légitimement, la question se pose. Est-ce que financièrement, on y gagne au change? C'est sûr que ça donne une visibilité à Montréal. Et même les gens qui vont pas au Grand Prix, là. Simplement le fait de voir Montréal sur les cartes, sur la publicité au plan international, les gens qui voient ça en Asie, en Europe de l'Ouest, aux États-Unis, qui voient Montréal, il y a un Grand Prix à Montréal, donc le nom revient. Et les gens peuvent venir, même si c'est pas pour le Grand Prix. C'est une destination touristique,
oui,
importante, crédible, sécuritaire, en Amérique du Nord, français. Il y a des gens qui vont venir à Montréal pour ces raisons-là, sans nécessairement s'intéresser au Grand Prix. Donc, c'est important d'évaluer l'ensemble des retombées économiques. Moi, je pense que ça doit rester. Donc.
Maître Bellemare, vous vouliez nous parler des arbres et des clôtures.
Oui, ben on a parlé au niveau des clôtures tantôt pour ce qui est surtout des piscines, mais vous savez, si vous avez un voisin qui a un arbre à un moment donné qui vous cause préjudice, il est responsable des dommages, que ce soit les branches qui tombent sur votre terrain, que ce soit les racines aussi qui viennent briser votre solage.
Okay.
C'est sûr que c'est pas toujours facile à voir, mais le Code civil prévoit que vous êtes responsable des arbres que vous avez sur votre propriété. Et si ça incommode vos voisins, ils ont des recours contre vous pour ces raisons-là.
OK. Donc, exemple, moi, quand j'étais... C'était au mois de décembre passé, là, il y a eu une genre de grosse tempête de neige. Nous, on était dans le sud. Ça avait brassé comme pas possible. Il y avait eu énormément d'arbres qui s'étaient tombés, qui s'étaient effondrés. C'est le cas de l'arbre de mon voisin qui est tombé dans ma cour arrière. On parle du plus gros arbre pratiquement du quartier, là. Puis c'est le voisin, sans nécessairement me demander quoi que ce soit, qui a dit « Ben, sais-tu quoi, Yann, je vais m'en occuper, puis je vais tout arranger ça, ça te coûtera pas une scène. » Puis moi, c'est comme si l'arbre avait jamais tombé chez nous. J'ai trouvé ça parfait, mais je me demandais si la loi l'obligeait à s'occuper de son arbre de son côté qui s'était tombé.
Okay. Bien sûr, il est obligé oui, il est responsable de l'arbre. S'il y a des dommages qui sont causés, il est responsable. Oui, t'es responsable de tes arbres. Et c'est sûr que c'est pas parce que tu as un arbre qui porte ombrage au voisin, le voisin trouve que c'est pas assez lumineux dans sa cour, il n'y a pas de recours pour ça, bien évidemment. Les arbres, ça pousse, ça grossit. Dans l'espace d'une quinzaine d'années, un arbre peut devenir une nuisance pour le voisin ou un inconvénient. Mais ça fait partie de la vie. Mais là, je parle surtout des branches.
Ouais. J'ai-tu le droit de couper une branche qui m'achale, moi? J'ai-tu le droit de couper une branche qui m'achale puis qui s'en va frotter sur ma maison?
T'as pas le droit de couper une branche. Mais tu as un recours contre le voisin pour... tu peux pas arriver avec ta chaîne ça puis te faire justice, même si la branche empiète chez vous. Mais tu peux prendre une injonction, tu peux prendre un recours pour forcer le propriétaire de la maison voisine à s'amender si jamais tu as un inconvénient de cette nature-là. De la même chose pour les racines. Et le juge peut ordonner, bien sûr, de couper la branche, couper l'arbre, même à la limite, si ça cause des nuisances, mais... T'as le fardeau de la preuve, parce que l'arbre est chez eux, en fin de compte, là. C'est sûr qu'il y a des branches qui arrivent chez vous, mais c'est pas, ça passe par-dessus ma ligne séparatrice de terrain que t'as le droit de faire tout ce que tu veux. T'es obligé de demander aux voisins l'autorisation de couper la branche ou les branches qui t'incommodent,
okay.
Surtout s'ils sont sur ton terrain. Puis sinon, tu as des recours, mais tu peux pas arriver avec ta chaîne ça puis couper ça.
Okay.
Tu peux le faire, mais lui pourrait à ce moment-là avoir un recours contre toi pour avoir brisé son arbre, okay. Même s'il y a une branche qui arrive chez vous. C'est pas toujours facile à gérer ces dossiers.
Autre question,
faut se parler, ça prend du dialogue, disons.
Exact. Autre question, Maître Bellemare. Je remarque, c'est pas le cas, mais je remarque qu'à côté de ma maison, il y a un arbre qui penche vers ma maison, puis année après année, il semble se tasser vers moi. Là, j'ai l'impression qu'il va s'écrouler. Est-ce que je peux demander aux voisins de s'occuper de cet arbre-là, de le couper
Tu peux le demander, tu peux faire une plainte au service municipaux. Qui vont aller vérifier les arbres, parce que de plus en plus, il y a des... En tout cas, je sais qu'à Québec, c'est très, très réglementé, la question des arbres. S'il y a des arbres qui sont menaçants, tu peux demander aussi à Hydro-Québec de faire une investigation si jamais l'arbre peut interférer avec le filage électrique ou les systèmes de conduit électrique extérieurs. Mais en principe, chaque personne est responsable de ses arbres. C'est sûr que si l'arbre présente des signes de déficience puis qu'il risque de s'écrouler, ben là tu peux exercer des recours contre ton propriétaire face à ça. Tu peux faire évaluer l'arbre aussi par un expert pour vérifier si effectivement il présente un risque de chute. Alors, c'est pas facile à gérer ces situations-là, mais normalement un propriétaire intelligent, responsable, va s'occuper de ses arbres. Mais s'il s'en occupe pas, tu as des recours.
OK. Autre question, Maître Bellemare. Moi, je suis arrivé, il y avait déjà une clôture qui était là. En discutant avec le voisin, on vient qu'à voir qu'on sait pas à qui ça appartient la clôture, parce que tous les deux, quand on a acheté nos maisons respectives, on n'a pas pensé à demander au notaire c'était qui la clôture. Puis anyway, quand on regarde ça, on est directement sur la ligne. Donc, on se dit, t'as un bord de clôture qui t'appartient, l'autre bord de clôture qui t'appartient. Comment ça fonctionne? C'est qui détient la responsabilité de la clôture quand elle est directement sur la ligne et on ne sait pas à qui ça appartient?
Mais d'abord, pour délimiter les terrains, tu peux demander à un arpenteur de faire un certificat de localisation à jour pour s'assurer que les bornes sont bel et bien aux bonnes places et que la ligne qui sépare les deux lots est à la bonne place. Et les frais d'arpentage sont aux frais conjoints 50-50 des deux propriétaires. Et tu peux obliger l'autre propriétaire à payer sa part. Il y a des mécanismes dans le Code civil pour ça. Si jamais la clôture, il doit y avoir une clôture qui sépare les lots, il doit payer sa part aussi à 50%. Alors, il y a des mécanismes qui existent dans le Code civil qui font en sorte que chaque propriétaire doit payer sa part. Si tu veux mettre la clôture de ton côté à toi, parce que tu veux avoir la paix et ton voisin ne collabore pas, mais tu peux mettre ta clôture à l'intérieur de ton terrain, par exemple à 1 mètre de la ligne séparatrice, et acquitter les frais à 100%. À ce moment-là, il ne peut pas t'empêcher d'avoir une clôture qui va indiquer son espace à lui, puis qui va l'assurer de son intimité. Mais si tu payes à 100%, tu peux la mettre un petit peu à l'intérieur de ton terrain, du côté intérieur, et non sur la ligne séparatrice pour éviter des conflits. Mais si, normalement, le voisin collabore, il paye 50% autant des frais d'arpenteur, du certificat de localisation, parce que ça lui profite à 50% et la même chose pour ce qui est de la clôture.
OK. Hey, on parle d'un dossier d'histoire, Maître Bellemare. Je sais que vous aimez beaucoup l'histoire et l'art. On a eu un maire quand même assez important à Québec du nom de Lucien Borne qui a jasé avec Winston Churchill. Est-ce qu'il a rencontré Charles de Gaulle? Je pense qu'il a rencontré
de
Gaulle aussi.
Oui.
C'est un maire qui a été très important pour la ville de Québec. On lui a donné un parc qui s'appelle le parc Lucien Borne. Pour lui rendre hommage. Et là, on a décidé qu'après tant d'années, il était temps de rebaptiser ce parc-là. Puis on a pris le nom d'un artiste qui est malheureusement décédé dans les dernières années, Karim Ouellet, un bon artiste, un bon chanteur, un bon compositeur aussi, quelqu'un que tout le monde aimait. Mais moi, je trouve ça très délicat, moi, de débaptiser un endroit pour le nommer, un autre nom.
Ouais, moi, je suis assez outré de voir que ça s'est fait. Personnellement, je suis pas un grand fan de Lucien Borne, Karim Ouellet non plus. Je pense que ce sont des gens qui ont vécu et qui ont eu leur part de mérite. Mais je trouve ça tout à fait triste qu'on débaptise un parc pour un maire quand même qui a été à Québec, qui a été là pendant 12 ans, qui a fait des choses, qui est un maire aussi du 21e siècle, là, qui nous a accompagnés pendant quelques années. C'est un peu comme le maire de la Montagne, le maire Pelletier, le maire Lallier. Et un maire dans une ville a droit à son espace. Lucien Borne, il y a quand même un centre culturel. Il y a des rues qui sont baptisées, au moins une rue qui est baptisée à son nom. Mais qu'on vienne enlever son nom d'un espace public, puis qu'on le donne à Karim Ouellet. On aurait pu trouver autre chose pour Karim Ouellet. La ville de Québec se développe à un rythme incroyable. On est à plus de 500 000 personnes, 1 million au total dans la communauté urbaine de Québec. Puis on n'a pas réussi à trouver un espace qui pouvait rendre hommage à Karim Ouellet autrement qu'en enlevant Pierre pour baptiser Paul. Alors moi, je trouve ça d'une tristesse infinie. Et je suis assez surpris de voir que ça s'est fait à Québec. Ça va se faire bientôt. Même si le conseil municipal a voté pour changer le nom, on n'a aucun élément de discrédit à l'encontre de Lucien Borne. On n'est pas dans le cas de Claude Jutras à Montréal, là, sur qui pesaient des allégations de pédophilie. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a quelques années.
Oui.
On lui a même enlevé son prix dans un festival culturel, cinéma, tout ça. On a débaptisé certains parcs. On n'est pas là, là. On est dans le cas d'un gars qui a été maire de Québec pendant plusieurs années, qui a fait des choses importantes à Québec, qui a été maire de 1938 à 1953. Puis là, il y a quelqu'un qui décède dans des circonstances malheureuses, évidemment, Karim Ouellet. On décide d'enlever, de lui donner un parc, mais d'enlever le nom de Lucien Borne. Je me souviens dans le temps de René Lévesque. Quand René Lévesque est décédé, qu'on a baptisé le boulevard René Lévesque au lieu du boulevard Saint-Cyril. Bon, Saint-Cyril, bon, ça ne dit rien à personne. Là. C'est pas une personne importante de notre histoire récente. On a changé le nom de Saint-Cyril pour devenir le boulevard René Lévesque. Je le comprends. Il y a des fois où on n'a pas d'attachement particulier à un personnage de l'histoire, surtout l'histoire ancienne, l'histoire religieuse. Mais là, franchement, Lucien Borne, on enlève son nom et on donne le nom de Karim Ouellet. Ça n'enlève rien à l'autre, mais je trouve que ça enlève un peu de crédit à l'artiste, dans une certaine mesure, parce qu'on a l'impression qu'on enlève du crédit à quelqu'un, puis même si c'est quelqu'un qui a été maire de Québec, qui a fait des grandes choses pour la ville de Québec, on comprend pas trop pourquoi on a enlevé ça. Mais moi, je trouve que c'est un précédent dangereux. Puis ça montre que l'administration municipale actuelle a peu d'égard pour l'histoire de sa ville, puis on manque de profondeur. Moi, je trouve ça d'une grande tristesse et je pense que je suis tout à fait contre la décision de la Ville de Québec d'enlever le nom de Lucien Borne pour cet espace-là au profit de Karim Ouellet. Ceci étant dit, avec toute l'admiration que j'ai pour l'artiste, j'ai de l'admiration pour les artistes, mais je peux pas croire qu'on n'est pas capable, on n'est pas dans une paroisse, là, on n'est pas dans un trou, là, on est dans la capitale nationale. Je ne peux pas croire qu'on n'est pas capable de trouver un autre espace pour rendre hommage à Karim Ouellet.
Effectivement, il y a de la place en masse pour renommer un autre endroit au nom de Karim Ouellet. Meurtre dans un crack-house de Québec, Mélissa Webb a finalement été déboutée en appel.
Oui, c'est pour dire, hein, la cour d'appel a jugé que le jury avait bien agi. Ça s'est passé, je pense que c'est en 2019.
Oui.
Dans une espèce de pécurie à Québec où la dame s'est retrouvée là. À un moment donné, il y a eu une espèce de chauffourée, une espèce de bataille. Puis elle s'est retrouvée à poignarder un individu qui est mort au bout de son sang, d'un seul coup de couteau. Et elle alléguait que le gars s'était précipité sur lui et que c'est elle qui avait voulu se défendre. Il y avait un témoin plus ou moins fiable qui avait confirmé cette thèse-là. Mais tu sais, quand tu piques quelqu'un avec un couteau, là, ça se peut que tu sois coupable de meurtre. Ça se peut que tu sois coupable d'homicide. Parce qu'un couteau, c'est pas fait pour piquer quelqu'un. Et la cour d'appel, semble-t-il, a tenu compte du fait que tout de suite après l'événement, Mélissa Webb s'était pas vantée, mais qu'elle avait référé à l'événement en disant, par exemple, j'en ai piqué un. Elle semblait être bien consciente de ce qu'elle avait fait. Et le mécanisme là, de la légitime défense n'a pas été retenu. Alors, quand on commet un acte criminel, les déclarations subséquentes, spontanées, ont toujours beaucoup d'importance pour évaluer l'état d'esprit de la personne. Est-ce qu'elle est consciente de ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle spontanément va évoquer le fait qu'elle a été agressée? Elle ne l'avait pas fait spontanément dans ses déclarations. Des déclarations qui étaient plutôt du type agression que du type défense face à un agresseur. Et ça serait quand même étonnant que le gars se soit lui-même poignardé dans une certaine mesure en se précipitant chez cette dame-là. Donc, ça veut dire 25 ans à l'ombre et possibilité de libération conditionnelle dans 12 ans. Et je pense que c'est une bonne décision, puis le système judiciaire a fait son travail là-dedans.
Voilà, c'est dit, Maître Bellemare. Il nous reste plus de temps, Maître Bellemare.
Ben,
on aura passé au travers du Zoom et maintenant de la ligne téléphonique.
Oui, tous les moyens sont bons.
Oui, c'est ça.
À Yann.
Exact. C'est toujours un plaisir. On s'en jase lundi prochain, Maître Bellemare.
Parfait. Merci beaucoup. Bonne semaine à tout le monde.
Merci. Au revoir. Donc, voilà, c'est tout pour Mars au soir, en espérant que vous ayez passé un excellent 55 minutes en notre compagnie. Ça va se continuer, puisqu'il a dit, t'es en train de frapper à la porte. Je fais toujours la même blague. Yannick, ouvre ma porte! Ben oui, on va vous présenter le meilleur du rock dans les prochaines secondes. Mais sinon, pour ce soir, ben, la météo est très clémente. On a parlé tantôt avec Maître Marc Bellemare. On va être gâtés cette semaine. Gilles Brien qui disait sur Twitter qu'il allait faire aussi chaud ici qu'à Miami. Bon, pas sûr qu'il avait raison, mais on va avoir quand même de la belle température. Actuellement, sur Québec, c'est 18. Partiellement nuageux pour ce soir, minimum de 10. Donc, ça va bien dormir, les amis. Pour ce qui est de demain, alternance de soleil-nuage avec 30 % de probabilité d'averse seulement en matinée. Par la suite, ciel dégagé, maximum de 23. Mercredi, ensoleillé, maximum de 27. Jeudi, ensoleillé, maximum de 30. Il y en a qui vont faire de la moto. Vendredi, ensoleillé, maximum de 28. Et c'est vendredi hein, qu'on célèbre à Québec là, pour ce qui est des festivités de la Saint-Jean. Donc, en journée, ce sera du soleil. Puis en soirée, bon, on parle de probabilité d'averse à 60 % minimum de 19 degrés. Samedi, ce sera nuageux avec 60 % de probabilité d'averse, maximum de 27 degrés. Et dimanche, 25 juin, ben, ce sera une alternance de soleil-nuage avec un maximum de 27. Je vous laisse là-dessus. On s'en jase demain, 11h30, pour ce qui est de Marceau le midi. Ciao!
Marceau le soir.
Je fais mon budget en ligne. Poum, poum, c'est fait. Je paye ma carte de crédit, facile de même. Je fais un nouveau placement, déjà fini. Et je retourne à mon film. Merci, bonsoir.
Gérez vos finances comme une virtuose avec les services en ligne et mobiles Desjardins. Téléchargez notre appli ou visitez desjardins.com.
Libère le cowboy en toi le 7 septembre prochain avec Tim McGraw au Festival Western de Saint-Tite. Une occasion unique de voir le chanteur en spectacle lors de son tout premier passage au Québec. La configuration du site permettra une proximité rêvée avec la légende de la musique country. Programmation complète au festivalwestern.com.
L'été, c'est fait pour se gâter. Se gâter avec le menu estival de Normandin. Du homard en guédille sur pizza ou en poké, de quoi vous faire saliver. Et puis qui dit été, dit chaleur. Savourez la fraîcheur de nos bons repas au quinoa et au fromage de chèvre, au saumon, au poulet mariné ou au General Tao. Et là là, avec autant de plats ensoleillés, Normandin, ça fait plaisir.
Un cue, ta playlist, mais elle t'apprendra jamais rien. Qui répondra jamais à tes textos. En tout temps, 971-1021.
Cet été, chez Vidéotron, optez pour un Internet capable de servir tout le monde. De la famille jusqu'aux amis des amis. L'Internet giga illimité est offert à 75 $ par mois. Un tarif sans surprise, même après 24 mois. Certaines conditions s'appliquent.
Chez Volkswagen Saint-Nicolas, on veut que vous profitiez en grand de l'été qui approche. On peut vous faire voir le ciel en grand à travers un toit ouvrant conçu sur mesure pour votre Volkswagen. On agrandit votre Volkswagen avec des supports pour les vélos, les canots ou les kayaks. On vous permet de profiter des grands espaces en tirant une roulotte ou un bateau. Ou encore, on pose des pellicules anti-UV sur vos vitres pour rendre vos déplacements grandement confortables. Même les plus petits accessoires chez Volkswagen Saint-Nicolas feront une grande différence dans vos plaisirs d'été.
Simard Cuisine et Salle de bain aménage l'espace de vie des gens d'ici depuis 55 ans. Simard se distingue depuis toujours par son expérience client humaine, des concepts personnalisés ainsi que par des produits et une conception de qualité. Le tout réalisé à l'intérieur de votre budget, vous donnant le privilège d'avoir un projet haut de gamme à un prix accessible. Voilà pourquoi près de 80 % des clients qui obtiennent une soumission décident de nous confier leur projet. Prenez-vous aussi la bonne décision en contactant notre équipe dès maintenant. SimardCuisine.com.
Et si une radio parlée voulait informer plutôt que désinformer? Et si une radio parlée voulait divertir plutôt que de chialer? Et si une radio parlée voulait rassembler plutôt que diviser? Et si une radio parlée voulait aussi jouer le meilleur rock?
Ben là, ça serait plus une radio parlée.
Ben oui, mais avec du rock.
Ben là, ça sera la radio parfaite.
Ben, c'est ça.
Boulevard 102.1, la radio parlée qui joue aussi du rock. Yeah!
Boulevard 102.1.
BLVD 102.1.
Vous connaissez le feeling. Les lumières viennent de s'éteindre. La foule se soulève pour en avoir encore. C'est là que la magie opère. Le rappel d'Elo, c'est maintenant. Avec Elodie Derry.
Salut les chums et bienvenue à Boulevard 102. Bienvenue dans le rappel d'Elo. J'espère que vous avez eu une belle fin de semaine. Je m'étais gâté un week-end de 3 jours avec un congé vendredi dernier. Et ça a fait du bien. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est aller-retour à Montréal pour voir une amie. Ça m'a pris, au lieu d'environ 3 heures et demie, là, quand je pars de Saint-Péréol pour Montréal, le vendredi, ça m'a pris 4h15. J'avais pas prévu le Grand Prix. Ouais, ça a l'air que j'étais pas toute seule à vouloir entrer sur l'île vendredi dernier. Et quand je suis revenue dimanche, je me suis reposée, bien évidemment, une belle grosse sieste. Fait que c'est rempli d'énergie que je suis là pour vous ce soir. Il y en a plusieurs pour qui c'est une semaine de 4 jours, d'ailleurs, cette semaine. Alors, je vous en souhaite une bonne et je vous propose qu'on commence cette soirée ensemble en écoutant de la bonne musique. Pourquoi pas un peu de The Offspring? Fait toujours la job du Weezer. Et voici Eddie Vedder, le chanteur de Pearl Jam, avec Brother the Cloud.
I would bleed out my knees and
kid, I thought I'd save the world. Running round and chasing all the criminals. Swinging on a web, flying in the sky. Shooting lasers from my eyes. But now I know it never was my destiny. It's not my place in life, not who I'm meant to be. And I don't need the glory, I don't need the fame. And I don't wanna wear this cape. Cause on the inside, I know it won't last. On the inside, I'm an outcast.
Yeah. up to the sounds of the silence that allows for my mind to run around. With my ear up to the ground, I'm searching to behold the stories that I told. When my back is to the world that was smiling when I turned.
Pour avoir du fun. Le rappel d'Elo avec Élodie Derry.
Facebook était tapissé de deux choses en fin de semaine. Premièrement, des